pour la dernière fois de la saison le générique de Comme à la maison, Timothée. Bah oui, sans JC ce soir, et vous l'avez annoncé la dernière fois.
Salut Stéphane.
Ouais. Alors je sais pas si on doit t'appeler Timothée d'ailleurs, parce que je crois qu'à la radio on t'appelle autrement.
Vous faites comme vous voulez mon cher Stéphane.
D'accord, bah moi je t'appelle Timothée.
Et bah très bien, ça ouais. Va.
Donc la dernière de Comme à la maison pour la saison, puisque là la période va être très très chargée musicalement sur Principe Actif avec les festivals qui vont s'enchaîner. Notre dernière émission elle devait avoir lieu dans 15 jours, et dans 15 jours ce sera le festival Le Rock dans tous ses états. Donc
ah oui,
bien
là
sûr.
on peut pas
à moins de la faire en direct de l'Hippodrome, on a autre chose à faire en général.
Il est vrai.
Voilà. Donc, il y aura quand même énormément de musique sur Principe Actif. Comme on est une émission de live, on va annoncer un peu tout ce qui va se dérouler dans les semaines qui viennent sur notre antenne. Dès demain, d'ailleurs, puisque ça commence demain avec Ça sonne à la porte. Enfin, ça a commencé auparavant, mais à partir d'aujourd'hui, ce sera demain, Ça sonne à la porte. Donc, à partir de 16h, je crois.
Festival, oui, des portes, 16h,
festival ouais. de grosses œuvres qui fête ses 10 ans. Donc un
festival gratuit, ouais, on rappelle.
Beau parcours pour ce festival qui a réussi à durer au milieu de multiples annulations d'autres festivals à peu près de la même envergure. Eux, ils ont tenu bon et ils sont encore là avec une belle programmation, des groupes qu'on a déjà reçus à l'antenne maintes fois comme Cyrus Minor, Lasco, Allo Orchestra ou encore Carton que vous entendez encore derrière moi puisque c'est notre générique. Et puis des gens qu'on va plus découvrir et qu'on a rarement eu comme Bukowski, Jacobson, Johnny Keeley, Audiofilm ou la nébuleuse Dima par exemple.
Et la radio Principe Actif sera en direct à partir de 18h sur le site jusqu'à 21h. L'idée pour nous c'est de recevoir la plupart des groupes de cette programmation de Ça sonne à la porte avec évidemment un petit échange au micro et puis on les enverra sur un petit live ou deux acoustique.
Voilà. Ils vont jouer également, comme l'an dernier d'ailleurs, puisque pas mal de groupes avaient joué le jeu. Ouais.
C'est la formule qu'on propose depuis quelques temps maintenant.
Très bien, on enchaînera 5 jours après avec le off du festival La Route.
Le Rock, bah oui, dans tous ses états, oui.
En ce moment, je suis dans La Route du Rock et la programmation de La Route du Rock, donc ma langue a fourché. Rock dans tous ses états, ouais, le off qui commencera le 18, du 18 au 25, il y aura des concerts un peu partout, dans tous les cafés et sur les places d'Evreux, place Septmontville, place des Fontaines, et puis un maximum de cafés qui sont connus pour organiser des concerts. Là, énormément de groupes, hein, puisqu'il y a des jours où il y en a 7 ou 8. Je ne sais pas si Principe Actif sera partenaire.
Oui, on couvrira la journée du 20, samedi 20.
D'accord.
La veille de la fête de la
musique.
Donc,
place Septmontville.
Exactement.
Et au Matahari le soir.
Je ne suis pas sûr qu'on sera au Mata, mais en tout cas, on sera place Septmontville dans la journée.
Ok.
Voilà.
Et puis enfin, à partir du vendredi 26 et samedi 27, ce sera le Rock dans tous ses états à l'Hippodrome d'Evreux où nous serons installés.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Ou presque, puisque vous le savez qu'il n'y a plus la scène Gonzo.
Ouais. Donc on n'aura qu'un plateau cette fois normalement.
Peut-être. Est en réflexion, il y a peut-être quelque chose qui va sortir
du sûr et un second peut-être.
C'est ça.
Voilà. Donc période très chargée, mais ce soir pour la dernière de Comme à la maison, on va fermer, je dirais, en beauté parce que alors j'ai souvent des remarques sur cette émission depuis qu'on l'a reprise en septembre, comme quoi il n'y a que du rock. Et il y a assez peu de place pour d'autres univers musicaux. Et ben on va faire mentir ces mauvaises langues ce soir.
Qui sont nos invités ?
Qui sont nos invités, Sacha et les Swing à Joe. On va les entendre très largement parler, mais pour l'instant, ils ont leur guitare en main, en bonne main même d'ailleurs. Donc on va tout de suite commencer avec eux, avec deux premiers titres en live de Sacha et les Swing à Joe, qui sont nos invités ce soir dans Comme à la maison sur Principe Actif.
Thank you.
les deux premiers morceaux de Sacha et les Swing Gadjo qui sont nos invités ce soir dans Comme à la Maison, jusqu'à 22h30 sur Principe Actif 102.4. Si vous n'êtes pas encore branché, faites-le. C'est ça qu'on dit à la radio, non?
Oui, mais en même temps, s'ils ne sont pas encore branchés, je ne sais pas comment ils peuvent écouter ton appel.
Ben, une sorte de télépathie, une sorte de télépathie, ça marche comme ça, tu sais. Les ondes, ça ne se commande pas. Donc, ça y est, on leur a laissé le temps de s'installer au micro et de rapprocher les tabourets des micros cette fois-ci. T'as rien dans le...
Si, j'ai les casques qui sortent un petit peu fort pour ma part.
Mais un petit peu fort. Ah.
Merci. J'aime ta voix, Stéphane.
C'est parce que je suis un peu sourdingue.
C'est hyper facile à faire, ça. Alors déjà, bah, je vais me tourner vers Sacha, ça tombe bien que t'aies pris la parole, parce que comme le groupe s'appelle Sacha et les Swing Gadjo, je suppose que t'es à l'origine du projet.
Non, pas du tout, bah non, pourquoi non, non.
Donc c'est pas toi le...
Non, c'est que c'est Sacha, ça sonne bien avec Swing Gadjo, je trouve.
D'accord.
Enfin, on trouve plutôt que ça sonne bien pour un nom de groupe plutôt... J'aurais pas la prétention de dire qu'il est central dans le groupe, parce que c'est un groupe. Voilà, donc on a tous notre place hyper importante. Sacha et les Swing Gadjo, ouais, parce que ça sonne bien avant tout. On a cherché un petit peu au début, le groupe s'appelait quand même...
Le Swing Gadjo existait déjà.
Les Swing Gadjo.
Ça existait déjà, il y avait un groupe qui s'appelait Swing Gadjo, donc il a fait les
voilà. Donc tu faisais déjà partie?
Non, du tout. En fait, l'origine de...
Ah, tu veux dire qu'il y avait un autre groupe?
Il y avait un autre groupe, il y a un groupe qui s'appelle toujours Swing Gadjo, donc okay. fallait se différencier, et on a trouvé que Sacha, en fait c'est une idée du contrebassiste, on a trouvé que Sacha et Swing Gadjo, ça sonnait bien.
D'accord.
Et pour l'origine du groupe, en fait, c'est... Moi, il y a très longtemps que je joue du manouche, et ouais. Je ne trouvais personne pour en jouer.
Ouais.
Et c'est vrai que dans la région, personne ne joue de manouche quasiment, quoi. C'est très difficile, c'est pas un style qui marche beaucoup. Et j'ai eu le bol que Sacha, quand il a commencé la guitare, s'intéresse à ce style-là. Mm-hmm. Donc ce qui fait très rapidement, on a joué tous les deux.
Donc on va quand même préciser que vous êtes père et fils.
Voilà.
Parce que
voilà.
Les gens
donc
le
ça, m'a, ça m'a permis vraiment moi, de développer ce style-là, parce que vraiment, je ne trouvais personne, quoi. C'était rock,
c'était
blues.
C'était un style que tu pratiquais depuis longtemps.
Voilà, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'essayais d'en jouer, mais tout seul, c'est vachement dur. Et comme personne n'en jouait dans la région, toi, c'était d'autant plus difficile, quoi. Puis à l'époque, il n'y avait pas de méthode, il n'y avait rien. C'était que les rencontres, mais personne n'en jouait. Donc c'était, c'est resté lettre morte pendant des années jusqu'à ce que, ce coup de chance, Sacha aime ce style-là, quoi.
Ouais, tu disais, Sacha, que c'était pas forcément une volonté de ta part et de la part du groupe plus largement de se mettre en avant, malgré qu'il y ait cette appellation Sacha les Swing Gadjo. Ceci dit, je constate, et vous allez me reprendre, vous allez me corriger, que c'est quand même toi qui tiens la plupart du temps les parties solo.
Ouais. Non,
même si je crois que ça tourne quand même entre les trois guitaristes.
Bah, en fait, on va dire que... Quand tu fais un groupe de manouche, effectivement, à un moment donné, il faut se dire bon, qui est soliste, qui est rythmique. Et voilà, et à partir de là, bah, moi, j'ai toujours bossé ma rythmique, toujours bossé mes gammes, etc. Et puis, c'est vrai que, bon, voilà, on va dire que j'étais plus apte à faire les solos que d'autres personnes. Mais après, ça se fait un petit peu, ça se fait un peu comme ça.
Ça s'est presque fait naturellement, quoi,
en fait. Voilà, ça
dès qu'il a commencé à jouer, il a tout de suite choper les gammes, les plans. Et moi, naturellement, je suis devenu rythmique, quoi, pour qu'il puisse aller dans les crosses. Puis il est quand même nettement meilleur que moi, quoi.
Sans parler d'être forcément meilleur,
si en manouche, faut être bon, faut avoir un bon soliste en manouche,
ça,
c'est ce qui fait la différence, quoi.
Ah non, c'est clair, mais après, voilà, par exemple, Thierry qui est aussi soliste rythmique, qui est surtout rythmique et qui se met de plus en plus au solo et au thème, etc. Bon, bah voilà, je pense qu'il a aussi une place à part entière dans le groupe à prendre, et puis voilà. Donc, mais effectivement, pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que voilà, dès qu'on est soliste, faut se définir en tant que soliste, quoi, parce que c'est un boulot à part entière. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que...
Je voulais revenir à toi, donc t'en as toujours fait.
Oui, toujours.
Et donc, ça veut dire que tu jouais tout seul dans ton coin et que tu n'arrivais pas par exemple, à te produire
Tout à fait, tu arrivais à proposer quelque
chose en solo quand même ou pas?
Non, du tout. Parce que moi, vraiment, le premier choc musical, c'était Minor Swing. Bon, uh-huh. Puis évidemment, Jim Hendrix, comme je suis guitariste électrique aussi. Mais vraiment, en manouche, c'était Minor Swing, quoi. Je me souviens qu'à l'époque, je jouais même pas de guitare, quoi. Donc, le plan bateau, je prenais le manche à balai, je faisais semblant, mais vraiment c'est ça quoi. Ouais. Et puis j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, mais c'est quand même de la virtuosité pour l'époque, hein, Django, hein, faut le savoir.
Ah oui, carrément. Ouais.
Si t'avais pas le bol de rencontrer des manouches, tu pouvais pas quoi. Mais surtout chez nous en Normandie quoi. Si on avait été sur Strasbourg ou dans les eaux de la France où il y a énormément de manouches, nous personne ne jouait quoi. Donc c'était... Puis tu dis, tout se faisait à l'oreille. Vraiment, il n'y avait aucune méthode. Donc
ouais. On reviendra tout à l'heure sur le style, la culture et puis les grands maîtres, donc, effectivement. Ouais. Moi, je voulais savoir comment un jeune comme toi, parce que ta génération, effectivement, il y a eu cette musique, il y a eu des grandes figures qui ont marqué, mais la tienne pas, Sacha. Donc comment t'expliques que tu sois tombé là-dedans? Est-ce que c'est juste parce que t'en entendais et que...
Je pense que c'est du coup de foudre.
Ouais.
Ouais, c'est de ce niveau-là, quoi. Donc, mais après, voilà, mais je viens quand même d'une culture hip-hop à la base. Voilà, j'ai grandi sur Nitreville avec des potes rebeux, des potes blacks, et pour moi, c'est une chance, voilà, d'avoir été dans un collège où il y avait plein de communautés parce que j'ai eu une culture vraiment hip-hop, mais je sais pas, j'ai toujours été hyper, hyper sensible au jazz, déjà. Et puis, le manouche, je trouve qu'il y a une sincérité. Dans ce style. Après aussi de raisons pratiques, parce que c'est vrai, comme l'a dit Néné, mon père, tout à l'heure, il cherchait un soliste, et puis une fois que t'as un rythmique et un soliste, bon bah déjà, même s'il y a pas de contrebasse, tu peux déjà t'envoyer des tonnes et des tonnes de morceaux. Donc il y a l'aspect vraiment, tout de suite on peut jouer, on peut créer,
un dialogue. Mais quand on s'y met du jour au lendemain, ça veut dire, parce que c'est quand même assez virtuose.
C'est carrément dur.
Ça veut dire que c'est des heures et des heures d'entraînement.
Ouais, c'est que ça.
De pratique.
Ouais, c'est que ça, ouais, c'est clair.
Puis il faut savoir aussi qu'avant d'être un bon soliste, il faut être un très bon rythmique aussi. T'es pas soliste, t'es rythmique avant d'être soliste, tu deviens soliste après, quoi. Mm-hmm. Donc ça veut dire que c'est vraiment complet, quoi.
Moi, je voulais me retourner un peu vers Thierry parce qu'on n'a pas encore entendu sa voix dans les micros. Bah, pardon, j'anticipe Stéphane, mais comment t'en es venu à jouer avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, le fait de jouer avec une...
T'es un peu le petit dernier, en fait.
Ouais, moi, je suis le petit dernier.
Et puis, il y a quand même une histoire de famille, on l'a bien compris. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de s'intégrer quand il y a déjà un noyau très dur et très constitué dans cette formation?
Non, moi, c'est pareil. En fait, c'est un jour, je suis tombé sur un CD de Django. J'ai écouté et je fais... Waouh, je veux jouer ça. Moi, je faisais du violon à cette époque-là, donc je faisais même pas de guitare. Et j'étais sur Toulouse, en fait, donc ça va faire 10 ans que je suis en Normandie. Quand je suis arrivé, pareil, impossible de trouver un musicien qui joue dans ce style. Et puis j'ai mes collègues de boulot qui m'ont dit: mais si, tu connais pas Néné, Sacha, il joue dans ce style. Donc je les ai croisés un premier coup, c'était parmi, je crois, c'était leur premier concert quasiment, ou 2, 3, 4.
Ça date déjà.
Quatrième concert, je les ai rencontrés après, on a discuté, on s'est croisés, puis voilà, moi, enfin, la vie, tout ça, le boulot, famille, tout ça, voilà. On s'est recroisés, ouais. Puis de fil en aiguille, ils se sont dit, Thierry, c'est un mec qui aime le jazz manouche aussi, ça serait chouette qu'il vienne jouer avec nous. Moi, j'avais hyper envie de jouer aussi, parce que quand même, tu peux jouer chez toi tout seul, mais bon, au bout d'un moment, ça tourne en rond, quoi. Alors moi, j'avais déjà joué un petit peu avec des copains quand j'étais sur Toulouse, mais ça faisait un moment que je jouais plus. Et donc voilà, rencontre, et puis petit à petit, tu crées des liens qui font que tu avances aussi sur la musique. Parce que bon, il y a effectivement un style musical qui nous rapproche, mais après, une fois qu'on a commencé à jouer ensemble, c'est ce qui se passe entre nous qui fait que ça peut avancer, ou sinon... On dit, ça ne le fait pas.
C'est un peu rassurant, là, ce que tu dis là, parce qu'on a l'impression que des fois, alors ça n'a rien à voir avec le style de musique manouche, mais il y a des groupes, tout constitué, tout fait, tout préformaté, je pense à la télé, des trucs comme ça, et on en oublierait presque qu'en fait, un groupe de musique, ça marche OK parce qu'on est bon et qu'on est des virtuoses plus ou moins sur son instrument, mais aussi et surtout parce qu'on s'entend bien avec les gars avec qui on joue. Je pense que c'est important.
C'est primordial. C'est clair.
Surtout en tant que groupe, quoi. Après, si t'es musicien, si tu rockines un peu, c'est pas très grave, quoi.
Si tu rockines, ça veut dire que t'es un mercenaire, c'est ça?
Oui, voilà, complètement. Si tu joues pour la thune avec tout le monde, musicien de studio, par exemple, quoi. Ils n'ont pas d'état d'âme, les mecs, quoi. Mais et c'est vrai, c'est très souvent, les groupes se séparent à cause de ça, quoi. Enfin, moi, j'ai joué dans pléthore de groupes, et je peux te dire que quand un groupe se sépare, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus cette amitié. Même si la musique est bonne, tu ne peux plus, quoi. Tu t'arrêtes. C'est pour ça que les groupes se séparent, généralement. Quand humainement, ça ne va plus, quoi.
C'est indispensable.
Ouais. Ouais, puis là, on est aussi sur du jazz, donc il y a quand même de l'improvisation, de l'écoute. Si si on s'écoute pas, ça veut dire qu'on peut, on peut pas communiquer non plus. Donc,
ouais,
il n'y a pas d'échange. Quoi,
ce qui est très intéressant avec le manouche, c'est que c'est une musique, moi je dis toujours, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est pas une musique intellectuelle. Quoi. Toi, c'est pas comme le jazz ou Barrel, faut jazz, faut réfléchir. Et nous, on fait énormément de concerts, on voit les gens comment ils réagissent. Quoi. C'est que du bonheur tout le temps. Quoi.
Alors ça, c'est rigolo.
On leur file
parce
la banane. Quoi. Et c'est pour ça aussi que ça nous lie tout ça. Quoi.
C'est rigolo que tu dises que c'est pas une musique intellectuelle, parce qu'on a quand même l'impression que le public est un peu élite, quoi. C'est-à-dire que le public qui va écouter du jazz manouche aujourd'hui est un peu, si, dans les salles.
Moi, je trouve pas.
C'est un peu branché, j'ai l'impression.
Bah, parce qu'il y a eu un revival du manouche, là, avec.
On en parlera tout à l'heure.
Oui, mais moi, je trouve pas. Non, je trouve que souvent, ça touche tout le monde. Pour nous, pour avoir fait plein de concerts dans des maisons de quartier, genre à Netroville, jouer dans des églises, des soirées privées, etc., ça touche vraiment tout le monde, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est une musique qui est authentique et qui est directe. Tu vois, c'est tout de suite, quoi. Mmh. Ça, c'est génial, un thème, trois accords, boum boum, une rythmique, et ça te parle de suite, quoi.
Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui se regarde. C'est indispensable, oui, de voir les mouvements, ouais, de doigts sur la guitare, ouais, etc. Et c'est fascinant, et un côté vraiment.
C'est une musique très énergique, qui demande une énergie énorme, quoi. Donc ça doit se voir quand on joue.
Mais c'est marrant que tu disais, ouais, c'est pas le jazz. Pourtant, il y a cette filiation avec le jazz. On dit jazz manouche. Alors, est-ce que c'est juste une question d'appellation ?
Alors, jazz manouche, c'est, tout ça vient de Django, en fait. Parce que c'est Django le premier qui a créé ce style-là. Mais c'est un mélange de. En fait, c'est plein de choses, hein, le jazz manouche. Quelque part, tu as du country parfois dans des morceaux manouches. Tu retrouves de la musique country, tu retrouves du blues. Django, il a fait ses dernières compos, c'était plus blues que. C'est tout un mélange, tu vois. T'as le blues un peu roots du Mississippi, t'as le big band aussi, t'as plein de choses là-dedans, quoi.
C'est surtout une histoire d'appellation, comme
oui,
tu dis.
C'est Django.
Il fallait mettre une étiquette, donc ouais, on a mis une étiquette.
Comme Django était manouche, on dit jazz.
Django, c'était un jazzman, parce que quand il a développé ce style, c'était précurseur, quoi. Il n'y avait personne d'autre qui l'avait fait.
Charlie Christian, un peu avant, qui jouait un peu dans ce style-là.
Un petit peu, mais c'était pas pareil, quand
ouais,
même.
C'est pas pareil, c'est tout à fait.
Ouais, alors, c'est un mélange de musette, de musique tzigane,
complètement,
et de voyage, quoi.
De voyage aussi.
Je voulais pas anticiper sur les questions de Stéphane, parce qu'à chaque fois qu'on aborde un thème, il dit ah non, on va remettre ça plus tard.
Ouais, à un moment donné.
Mais justement, ouais, c'est un peu ça ce que vous disiez, c'est que du coup, comme c'était des manouches qu'il jouait et qui étaient des gens qui bourlinguaient tout le temps, ça s'est forcément mélangé à d'autres choses. Ils avaient une certaine culture qui était à eux, mais qui s'est enrichi au contact d'autres populations, d'autres peuples, et du coup d'autres musiques.
Tout à fait. Et Django était un féru de musique classique. Puis après le bebop, évidemment, quand il a découvert la musique américaine, c'était un choc pour lui, quoi. Fin de sa carrière. Les derniers morceaux de Django sont extraordinaires de virtuosité.
Fin de vie plus que fin de carrière, hein, parce qu'il n'était
Quand je dis fin de carrière, fin de vie, je veux dire.
Ouais.
Je pense qu'il serait allé vraiment loin. On le sent dans les dernières compos. D'ailleurs, il jouait de la guitare électrique et après, il jouait plus de guitare.
À la fin.
Ouais,
je ne savais pas. On va quand même dire que parfois il y a deux membres en plus dans Sacha et les Sigma Joe. Il faut quand même parler d'eux, même s'ils ne sont pas là.
Alors,
ce soir.
En théorie, on est cinq. Donc il y a trois guitares.
En pratique aussi.
Voilà. Oui, en pratique.
La
aussi,
plupart du temps.
Surtout en pratique, ouais, c'est clair. Et on est trois guitares. Donc là, ce soir, on est les trois guitaristes. Et il y a un contrebassiste et un violoniste avec nous. Mm-hmm. Donc le contrebassiste, il s'appelle Jean de Clinchamp. Donc c'est un copain de mon père avec voilà,
vieux routard qui joue dans plein de groupes,
qui a de l'expérience et qui voilà,
ceux qui peut-être qui écoutent, qui a joué avec Is No Good, qui a joué avec Du Bout du Genou, qui a joué avec le père Jaillette, enfin toute la clique de la grande époque.
Mm-hmm. Donc on a un violoniste qui s'appelle Pascal Lelion, qui est de la région rouennaise, qui a pas mal tourné sur la région rouennaise, et c'est pareil, il a dû entendre parler de nous comme ça, et puis on s'est rencontrés deux, trois répètes, et puis c'était parti. Mm-hmm. Donc après, on s'adapte en fonction de la demande des gens.
Ouais, voilà, ce que j'allais dire, la géométrie est variable, c'est-à-dire
c'est
quand vous êtes,
l'avantage,
quand
c'est
vous êtes
sympa,
dans des plus petits lieux, vous êtes peut-être moins nombreux.
C'est ça, trois. Je crois qu'on peut jouer à cinq, on le fait forcément, mais c'est quand même très difficile de jouer à cinq, c'est déjà plus, malheureusement, mais quatre ou trois souvent. Quoi, ça tourne.
Et du coup, je me demandais, donc trois guitares, une contrebasse, un violon, c'est ça la formule type d'un orchestre de manouche, où il peut y avoir d'autres musiciens, d'autres instruments, et du coup, quel serait-il ?
Bah, ça, c'est la formule que du coup a développé Django, qu'il a appelé le quintet du Hot Club de France, donc c'était sans trompette ni tambour, en fait. C'était comment faire un jazz, donc en fait, les guitares rythmiques, grosso modo, elles font la batterie, la contrebasse fait le rôle de la basse, et il y a une guitare solo et un violon qui se partageaient les choruses.
Les thèmes, ouais.
Les thèmes.
Il y a parfois du, il y a eu quelques formations, moi j'en ai eu quelques-unes, où il y a une clarinette ou une trompette. J'ai vu un groupe de jazz manouche en Hollande, où il y avait un trompettiste. Et c'est vrai qu'au bout de deux, trois morceaux, ça gave un peu. Et clarinette aussi, ou. Mais c'est vrai que.
Accordéon aussi.
L'accordéon, c'est plus musette.
Ouais,
déjà.
Mais accordéon.
Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, on a joué pendant un moment avec un accordéoniste que vous devez connaître, qui fait la manche à l'insume.
Au printemps.
Qui est très, très bon, un super accordéoniste.
Ouais, on a quelques moments avec toi, Néné, notamment dans les bus, quand on avait fêté les 10 ans de la radio. C'est des grands souvenirs. C'est vrai, c'est vrai.
Et le plus grand plaisir pour vous, c'est de jouer à 5 ou à 3, c'est déjà bien?
Ah bah, l'idéal c'est
ça
quand même
change,
de 5 à 5.
Ça change quelque chose, ouais, l'idéal c'est 5. Quoi.
C'est de jouer. Ouais, c'est de jouer, mais à 5 c'est bien.
Ouais,
quand même.
À 5 c'est vraiment bien.
Il y a une assise, enfin moi je parle en termes de quand tu prends les solos et que quand ça part, les deux guitares et la contrebasse quand c'est carré.
Ouais, puis les deux guitares peuvent faire des doubles voix.
Il y a une assise, c'est plutôt pas mal.
Mm-hmm. Les doubles voix peuvent doubler les thèmes, les guitares c'est vachement bien, quoi. Tu vois, ça développe.
Et il n'y a jamais de chant dans le jazz manouche. C'est quelque chose qui est totalement impossible.
Ça chante pas bien.
Si, il peut y avoir du scat un petit peu.
Ouais, mais ça, là, on se barre un peu. Dans le vrai jazz manouche, il n'y a pas de chant.
C'est pareil, quand ça scat, c'est vite chiant.
C'est vrai. C'est vraiment
franchement, au bout de 2-3 morceaux, c'est un peu.
Il y a quand même des puristes autour des micros, là. Faut pas dire de conneries, Stéphane. Fais gaffe à toi.
Ouais, mais c'est une question, c'est pas une affirmation.
T'as raison.
Il y a du chant quand c'est plus musique vraiment de l'Est, Watzigan, ou musique un peu. Parfois ça chante. Ça arrive aussi. Je sais pas si vous avez vu le film Swing.
Oui.
Swing, ça chante.
De Tony Gatliff.
Ça chante, il y a du chant. Ça joue, c'est plus esprit vraiment, là, pour le coup. Musique vraiment de l'Est, pure.
Traditionnelle.
Mmh, avec des textes qui racontent quoi en général?
C'est des chants de Zigane en général.
C'est assez triste en règle générale.
Ouais, hein, j'imagine.
C'est une histoire de mort, d'amour.
Ouais,
c'est très triste. C'est un peuple qui a souffert quand même. Hein, et qui souffre toujours d'ailleurs.
Et vous n'avez pas pensé à essayer
Non. Nous, ça,
même sur un seul morceau?
Nous, oui, on chante Jean, le contrebassiste, chante sur 2-3 morceaux. Entre autres sur
Brassens, l'Auvergnat.
Un morceau de Brassens, sur Ménilmontant qui font traîner, sur 2-3 trucs comme ça, tu vois, sur des valses où il peut chanter, mais c'est plus vraiment un truc que
c'est
je
vraiment chante, ponctuel.
Ouais.
Du coup, ça veut dire que vous élargissez, enfin, je sais pas comment dire, mais vous allez aussi vers des trucs plus chansons françaises, vers des. Vous parliez de Brassens par exemple, c'est-à-dire que vous restez pas forcément sur un répertoire dit traditionnel de jazz manouche.
Ouais, effectivement, on va dire en gros, on a près de 40 morceaux à proposer à l'heure actuelle. On va avoir en gros 30 morceaux vraiment du répertoire de Django et une dizaine de morceaux à côté où on peut répondre à une demande. Si des gens nous demandent par exemple justement une bossa, je sais pas, hein, tu vois, une valse. Une chanson française, voilà, on sait quand même s'adapter.
Mais vous l'interprétez
à notre sauce, après.
Au style manouche.
Ouais, quand même, ouais. Ça reste du swing, tu vois, mais on sait quand même répondre à la demande si des gens nous demandent. C'est important aussi de ne pas faire que du manouche, parce que ça peut gaver les gens, on ne sait jamais, tu vois. Donc c'est bien de pouvoir répondre à toutes les demandes.
Le reste de la musique, quoi. Enfin,
c'est
un style
qu'il faut savoir
dans lequel on a envie de. Vas-y. Pardon. C'est un style dans lequel on a envie de parler, j'ai envie de dire.
De dialoguer.
De dialoguer, mais en même temps. Voilà, on a chacun des 5 musiciens, on a nos influences aussi de à côté, tout ça, on les partage, on essaye quand on se voit, on dit « Ah bah tiens, on pourrait essayer tel morceau, un peu comme ci, comme ça. »
Et donc c'est vrai qu'on a une particularité, enfin moi en tant que rythmique, je vais parler pour moi, je viens du rock quand même malgré tout, et c'est vrai que ça se ressent dans mon jeu. Et c'est peut-être ce qui fait justement, que c'est ça qui intéresse les gens, parce qu'ils trouvent qu'on joue manouche, mais pas que manouche pure, tu vois. Au bout d'un moment qui peut être un peu, ça reste toujours un peu droit, même si c'est des virtuoses les mecs, hein. Nous, on a quand même ce côté-là. Moi, je viens du rock, du blues. Sacha vient du hip-hop. Thierry, pareil, il a joué du violon. Il écoute plein de musique, très world music, etc. Donc, tout ça, ça fait un vrai mélange. Tu vois, c'est génial. Moi, j'ai une énergie rock. Tu vois, je joue très rock, malgré si c'est du manouche. Et Chassa, parfois, on voit des traits bebop, des traits blues, funky. Ce qui se fait pas en manouche, quand même. Et ça intéresse vraiment les gens, quoi.
Ouais,
tu vois, ce claque, ça leur parle. Plus que du manouche, plus qui est extraordinaire. Hein, mais au bout d'un moment, ça reste. Ça nous arrive parfois de jouer avec guitariste manouche, pardon. Et qui est très très bon, hein. Le mec c'est un virtuose, hein, vraiment. Et les gens qui ont l'habitude de nous écouter, quand on joue avec lui, au bout d'un moment ils en ont un peu marre, au bout de 3-4 morceaux. Parce que ça reste que manouche pure, quoi.
D'accord. Donc c'est un peu cloisonnant finalement.
Bah, si t'es pas aficionado, si t'es pas fan à 200%, parfois les gens peuvent décrocher. Ils ont l'impression que c'est toujours pareil alors que c'est pas
ça. Ça que tu disais tout à l'heure, Stéphane, ça, là par contre, ça, ouais, ça correspond plus à une élite en fait. Voilà, de manouche puriste.
C'est un peu la vision qu'on en a de loin. Quoi,
voilà, donc c'est vrai qu'en général, la plupart des remarques, c'est vous faites du manouche, mais à votre sauce. Ouais. Vous faites pas que du manouche et ça fait du bien.
Du coup, c'est presque un compliment, ça.
Oui, bah ouais, tout à fait. On le prend en tout cas comme tel.
On est même carrément.
Oui, j'ai l'impression.
Et ouais, ils vont prouver tout de suite en allant rejoindre la guitare que c'est le cas. Donc, les Sacha et les Swingajo qui sont avec nous jusqu'à 22h30 pour deux nouveaux morceaux en live. Comme dit toujours JC, c'est en vrai direct dans les studios. Il insiste toujours là-dessus. Alors, comme il n'est pas là, je vais le dire à sa place. C'est pas semblant, c'est pas enregistré, c'est pas. Voilà, ils sont vraiment là, ils jouent vraiment dans le studio avec leurs instruments et on va les retrouver tout de suite. Sacha et les Swingajo, là, ils sont en pleine conversation, donc on va leur laisser finir leur conversation. Voilà, ils sont prêts, je crois. C'est bon ? Voilà, c'est parti.
Thank you.
Deux morceaux de Sacha et les Swingajo qui sont avec nous pendant encore plus de 45 minutes dans cette émission comme à la maison, un vendredi sur deux sur Principe Actif.
On en redemande.
On en redemande, bien sûr. Bah
merci,
oui.
Merci.
On va en avoir d'autres.
Merci.
Ils en ont encore en réserve. Ils vous ont dit qu'ils avaient 40 morceaux. On peut rester jusqu'à 5h du matin.
Fait nocturne.
Ouais. Moi, je voudrais qu'on reparle un peu parce que depuis le début de l'émission, vous parlez tous de Django, mais on n'a même pas entendu son nom de famille. Sauf erreur de ma part. Et peut-être que les plus jeunes de nos auditeurs se disent, mais il parle du film de Tarantino, il parle de quoi? Voilà, donc il faudrait peut-être représenter un peu le personnage
Jean-Baptiste,
qui est vraiment le modèle.
Jean-Baptiste Reinhardt.
Voilà, donc Reinhardt.
Django Reinhardt, ouais. La famille Reinhardt.
Né en Belgique, d'une famille manouche.
Ah, j'étais sûr que vous connaissiez sa bio par cœur.
Ah, oui, forcément. Qui a eu un fils qui jouait avec son frère qui s'appelait Joseph, qui était le guitariste rythmique. Mais Django qui n'était pas facile à gérer, qui était un mec ingérable. C'est comme,
né en 1910, ouais. Hein, quand même, pour situer un petit peu l'époque. Un manouche en 1910, c'est...
Il était réellement manouche.
Oui, ouais. Comme tous ces artistes, ouais. Comme ces génies, parce que c'est un génie, Django. Hein. Il était vraiment ingérable, un parcours exceptionnel. Ouais. Il était violoniste au départ. Sa roulotte a brûlé, il s'est retrouvé avec la main atrophiée, il n'avait plus que deux doigts qui fonctionnaient. Donc il s'est mis à la guitare suite à ça, quoi. Puis c'est devenu le virtuose qu'on sait, quoi. On fait un raccourci parce que sa vie, elle est tellement...
Bah oui, bien sûr, ouais. On ne va pas raconter toutes les étapes, mais au moins redonner un cadre, une époque, voilà. Etc.
Et il a vraiment influencé tous les guitaristes, tous les musiciens d'époque, d'ailleurs.
Est-ce que c'est lui qui... Évidemment, c'est la figure, c'est la personne la plus connue du jazz manouche. Est-ce que c'est lui qui l'a démocratisé? Est-ce que avant lui, c'était pas un truc qui était beaucoup écouté, notamment, France, par exemple. Et puis c'est lui qui a dynamité le truc.
Avant lui, ça n'existe pas.
C'est lui qui l'a inventé.
Il l'invente.
Simplement. On parle de jazz manouche ou parfois aussi de swing gitan. Le swing, c'est la musique des années 30. Le début du quintet, donc quand ils sont cinq avec Grappelli au violon, Django deux guitares et
Stéphane Grappelli jouait avec lui.
35-38. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est ancré dans cette époque-là. Et ce nom de jazz manouche, c'est vraiment du je pense, il faisait du jazz, quoi.
Oui, voilà, je posais pas la question.
Sans trompette ni tambour, c'était le but. Ils ont proposé cette formule, ce quintet.
C'était évident que ça devienne un style à part entière, quand même. Enfin, pour moi, c'était quand même une évidence, quoi. Il y avait, ça a révolutionné quand même le style. Et c'est là où effectivement, il a créé quand même un style, quoi. Pour moi, Django, il a créé un style. Hendrix a révolutionné la guitare électrique.
Ouais, tout à fait.
Mais est-ce qu'il le crée Moi, je veux prolonger la question de Timothée que j'ai pas compris exactement de la même façon. Est-ce qu'il le crée à partir de quelque chose qui existe déjà, mais qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas de la culture populaire autour du feu, je crois pas.
C'est des influences. Mais lui, il a vraiment créé, je pense qu'il a créé un style.
Pour moi, il le crée parce qu'il se retrouve à une époque exactement entre le musette, les débuts du jazz. Lui, il a sa culture de manouche, donc il a engrangé de voyages énormément de musiques différentes.
Et d'influence,
Et tout ça, ça rentre dans lui. Et après, lui, il a besoin de le ressortir. Et c'était un artiste.
Ouais, puis
en plus de ça, c'est un génie. Hein, donc, c'est vrai que.
Ouais, Django, Sacha en parlera beaucoup mieux que moi pour avoir travaillé les chorus de Django, mais c'est des mines d'or, ces chorus. T'as beau les écouter 30 000 fois, tu découvres toujours la note. Tu te dis, mais putain, où est-ce qu'il est allé la chercher? Non, mais un truc de dingue. Même ses thèmes, il y a des thèmes sur 3 ou 4 notes. Qui sont fabuleux, qui te restent dans la tête.
Des fois, j'hésite à me couper deux doigts pour jouer comme lui, mais je me dis, ça va.
Tu peux faire comme Thomas Dupont.
Mal, méfie-toi.
Il avait réellement deux doigts en moins.
Il avait deux doigts brûlés.
Il jouait qu'avec
deux doigts brûlés.
Et justement, c'est là où je voulais en venir. Django aussi, il a créé ce style si particulier, justement par rapport à son handicap. Quoi. Grâce ou à cause de son handicap, il a un jeu, ce qu'on appelle à l'horizontale, en creuse, vu qu'il avait deux doigts. Tu vois, il pouvait pas faire des gammes.
Avec
des
beaucoup plans, de glisser, du coup.
Voilà, glissando, puis il joue à l'horizontale ou des gammes très particulières. Puis il a créé ce style aussi, ce son. Je pense que le fait d'avoir que deux doigts, ça lui a.
Oui,
peut-être qu'il n'y aurait pas ce style-là s'il avait
Le son.
Le son de Django, quoi. Puis très, très percussif, toi. Ça percute la guitare manouche. C'est des guitares très dures à jouer en plus, qui sont très techniques, très physiques, tu vois. Il faut rentrer dedans, des gros médiateurs, c'est des cordes très dures. Et les mecs, les manouches, ils ont une force, une énergie énorme, quoi. Et ça, quand tu veux faire du manouche, le conseil qu'on donne, nous, tout le temps, faut De l'énergie, on sait pas du folk, tu vois. Faut rentrer dans
le truc, autre chose, hein.
Le truc, justement, par rapport à ça, petite parenthèse, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est facile quand ils nous voient en concert, tu vois. Ils pensent qu'il suffit d'appuyer et puis de sortir des notes. Non, mais.
Absolument.
C'est ce que les gens, en général,
c'est des gens qui font pas de musique.
Bah, ouais, sûrement.
Moi, je pense que voilà, c'est des gens qui font pas de musique.
Ouais, des gens, voilà, c'est ça.
Et pour le soliste.
Quand on voit un peu des groupes et quand on parcourt les concerts et qu'on vous voit, on comprend que c'est pas la même chose.
Pour le soliste, toutes les notes sont attaquées, quoi. Il n'y a pas de scène ou de Poulignoff ou de Hammer, toutes les notes sont jouées main droite, main gauche, en rythmique, c'est pareil, t'es tout le temps à bon.
Parce qu'il n'y a pas d'effet sur la guitare, donc par conséquent, effectivement, les fausses notes, tu les entends de suite, en tout cas. Quoi.
Alors, comment ça se fait, puisque Django Reinhardt, ça date des années 1910, comment ça se fait que c'est toujours la référence et qu'il n'y a personne après, parce que je suppose qu'il a fait des émules, qu'il avait des disciples, entre guillemets, qui ont repris le style et qui ont été excellents aussi, comment ça se fait qu'il reste la référence.
C'est le boss, quoi.
Pour moi, vraiment, il y a deux choses quand même. Il y a le jazz manouche et Django. Django, il arrive, il crée ce style. Et comme disait Néné tout à l'heure, quand tu reprends, par exemple, tu prends n'importe quel morceau, composition de Django, écoutez, reprise je sais c'est pas énorme. Combien de fois par des groupes manouches de talent. Tu réécoutes une version de Django et tu dis, attends, mais ça n'a rien à voir.
Ah, c'est clair.
C'est comme si peignait, c'est un tableau, c'est vraiment sur le placement.
C'est un artiste, quoi.
Les autres aussi, il était peintre d'ailleurs. Il était peintre, c'est pas par hasard.
À la fin, ouais.
Il s'est mis à la peinture.
Oui, non, mais c'est vraiment.
Non, il y a eu
Il y a vraiment les deux choses pour moi. Il y a Django et après lui, il y a le jazz manouche, donc tous les descendants qui font du coup son style de musique sur ses compos, tout ça. Mais après, il y en a des très bons. Il y a par exemple Birelli Lagrène.
Qui est plus balèze que lui, techniquement. C'est un monstre. Birelli Lagrène, c'est certainement le meilleur mondial, quoi. Ouais, mais c'est pas Django, quoi. C'est comme Hendrix. C'est comme.
Tu joues avec Jaco Pastorius,
guitare,
tout ça.
C'est vos guitares. Après, c'est, dans tous les domaines, t'as un maître, quoi. Et Django, c'est le maître.
Mais donc, c'est rester le maître inégalable.
Ah oui, puis chez les manouches, c'est un dieu, quoi.
C'est un dieu, vraiment. C'est même plus que ça.
Ah oui, il est respecté.
Vraiment.
Quand il est mort, c'était un deuil, mais c'était terrible quoi, pour eux.
Il est mort à quelle époque ?
Très jeune, 42 ans.
Ah oui, 43. Il avait 43 ans.
43 ans. Il ne voulait pas se soigner, quoi, comme il est mort d'une congestion cérébrale. Quoi. Il était malade depuis un moment, puis il ne voulait pas se soigner. Et boum.
Ah oui, destin tragique quand même.
En plus, qui contribue à la légende et tout. Donc c'est vrai que du coup, tu vois tout ce qui est entretenu autour de Django.
Il y a un mec qui n'était pas facile, quoi. Il avait rancard au State avec Duke Ellington. L'autre, il l'attendait. Django, il pêchait sur les bords de la Marne. Et l'autre, il a niqué sa carrière américaine parce qu'il n'avait pas envie d'y aller, quoi. Il préférait pêcher. Puis les Ricains, tu leur fais qu'une fois.
Je crois qu'il avait croisé Marcel Cernan dans un rade.
Oui, c'est ça.
Et ils sont restés à boire des coups et à parler de la France. Et il ne s'est pas pointé au concert.
Les Ricains, tu leur fais qu'une fois, quoi. Tu leur fais pas deux.
Sa
carrière américaine a été grillée à cause de ça, alors qu'il aurait pu faire une carrière énorme. Quoi.
Ouais.
Il n'avait pas de thunes, il flambait tout. Toi, c'était un mec qui était dans la vie, un génie. Quoi.
Ouais. Bah oui, voilà, un génie, c'est toujours comme ça, les génies.
Ouais, tout à fait.
Et on a parlé tout à l'heure un petit peu, enfin, vous avez parlé un petit peu de Brassens tout à l'heure. Comment ça se fait que les chansons de Brassens sont très souvent reprises en jazz manouche? Est-ce que c'est parce que lui avait ces influences-là aussi? Ou est-ce que parce que les chansons s'y prêtent et qu'il avait un peu cet esprit-là?
C'est très jazz, Brassens. Hein. Ouais. Quand tu écoutes ses mélodies, c'est très, très jazz. Hein.
C'est compliqué comme musique, Brassens.
Ah oui, mais complètement.
On a l'impression qu'il se pose avec sa guitare.
C'est une erreur monumentale.
Oui, bien sûr.
Moi j'ai commencé à faire du Brassens quand j'ai vraiment commencé à jouer de la guitare. Putain, c'était chiadé les mélodies. Pour chanter Brassens, c'est très très difficile, c'est très jazzy quoi. Puis c'est quand même la rythmique un peu tchak-poum, tchak-poum, tu vois. Donc, et puis tout ça, il s'est influencé. Hein. Brassens, d'ailleurs, dans une de ses chansons, il rend hommage à Crolla, qui est un guitariste manouche. Il rend traîné à jouer avec Django, tu vois. Ils sont tous fréquentés, tous connus, quoi. Donc,
ça veut dire que cette musique-là, elle n'est pas seulement réservée à ceux qui veulent faire du jazz manouche. Elle circule et elle peut être reprise dans des choses un peu plus...
Complètement. Tu sais, quand t'écoutes maintenant,
grand public.
T'écoutes Zaz, derrière, c'est quoi? C'est presque de la pompe, du manouche, hein. Au niveau rythmique, hein. San Severino, il l'a très bien fait, San Severino.
Ah ouais. Bah, on en vient peut-être à la question que je vais poser, parce que tu avais parlé de revival tout à l'heure. Quelqu'un comme Thomas Dutronc, quand il arrive dans l'industrie du disque, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, avec un album qui est censé être du jazz manouche. Est-ce que c'est réellement du jazz manouche? Je pense à son tout premier album, où d'ailleurs il y a le mot manouche, puisqu'il y avait
une chanson guitare.
Et toute la presse dit c'est du jazz manouche, etc. Lui aussi il le revendique. Alors qu'est-ce que ça vous inspire,
Moi, je vais dire ce que je pense, après les gars le diront. Voilà. Pour moi, c'est pas du manouche. Quoi. C'est un bon guitariste. Hein. Il a fréquenté le milieu manouche. Et on va dire qu'il a popularisé au niveau du grand public ce qui était du pseudo manouche. Si tu dis à des guitaristes manouches, c'est vrai que Thomas Dutronc fait du manouche, les mecs ils sont verts. Quoi. Mm-hmm. Pour eux, c'est pas un guitariste manouche, même s'il est bon. Hein, quand même,
c'est ce que la presse disait.
Il y a eu un effet de mode. Mm-hmm. Enfin, voilà, moi, c'est mon avis. Vas-y.
Tu veux dire qu'il a occupé un créneau
Il l'a mis grand public. Puis en plus, comme il chantait, c'est vrai que c'était vachement plus facile d'accès. C'est un peu esprit manouche quand même en même temps. C'est un peu le son manouche. Il joue sur des guitares manouches. Mais lui, c'est pas comme nous, on se revendique pas manouche. Hein, donc lui, c'est pas un manouche, quoi. Tu vois, pour moi, il fait pas du jazz. C'est de la variété manouche. Si ça existe, hein, je sais pas ce que je veux dire.
Il a peut-être inventé ça au moins.
Mais je crois comme nous, Thomas Dutronc, je pense, un jour, il a découvert Django, il a dit « j'aime ce style, je vais faire ce style », donc il a bossé dans son coin. Après,
c'est peut-être papa aussi qui lui a fait découvrir.
Ou son père, après c'est le fils.
Parce que je pense que Thierry
Sauf qu'il a eu le bol de rencontrer Birelli Lagrène, Angelo Debord, ouais, mais Birelli tous ces grands guitaristes.
Il les a rencontrés parce que déjà, People, tout ça. Oui. Mais après, c'est Birelli Lagrène, donc on disait tout à l'heure, super guitariste de jazz, qui fait son Gypsy Project, donc je ne sais plus quelle année c'est exactement. Et qui invite Thomas Dutronc à venir l'accompagner sur toutes les grandes scènes comme guitariste rythmique.
On l'avait
à côté de ça, il y en a d'autres guitaristes. Il y en a un, il est béton d'ailleurs. Maintenant, il n'y a plus que lui qui tourne avec. Ono Winterstein. Et il y a Thomas Dutronc pour le côté People, parce que les gens, ils en parlent forcément.
Et puis ça fait venir du monde d'avoir sur l'affiche de Marc.
Alors la légende dit que Birelli Lagrène ne l'a pas gardé parce que sur un de ses concerts, Thomas Dutronc a voulu taper un chorus après Birelli. Et puis Birelli, c'est quand même. Il est intouchable, quoi. Il est au-dessus de tout le monde, quoi. Et ça aurait déplu à Birelli, mais enfin, c'est ce qui se dit, quoi. Est-ce que c'est vrai, il l'aurait dégagé suite à ça, quoi.
Je vais donner la parole à Timothée, mais avant, j'avais juste. Est-ce qu'il n'a pas au moins le mérite d'avoir repopularisé ce style et d'avoir donné envie, peut-être, aux gens.
Dans ce cas-là, il faut écouter le premier album de Sanseverino.
Ouais, voilà.
Plutôt que d'écouter Thomas Dutronc. Le premier album de Sanseverino, Le Tango des gens, je crois.
C'est ça.
Qui est plutôt bien racé manouche. Il y a un vrai son.
Il y a un bon gratteux derrière.
Plutôt que d'écouter un manouche en guitare.
Mais il a peut-être été moins médiatisé. Peut-être que c'est l'occasion de découvrir.
Non, il a marché. Non, il a cartonné le premier.
Il était passé là, d'ailleurs, je crois, au festival.
Avec Hervé Loger. Hervé Loger derrière.
Hervé Loger derrière,
qui est très bon, d'ailleurs.
En termes de texte, entre Dutronc et Sanseverino, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà.
C'est
je voulais vous demander un truc. Est-ce que c'est bien accepté dans le milieu manouche de jouer. Alors. Pas forcément du jazz manouche pur et dur, c'est pas ça la question, mais de jouer ce style-là, ces influences-là, quand on ne l'est pas. Quand on n'est pas de la culture, quand on n'est pas du milieu, est-ce que on peut se prendre des caillasses ou je sais pas, faire huer
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une ouverture d'esprit parce que, en fait, la réalité, elle est devant nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se mettent au manouche et qui n'écoutent pas que du manouche. Et du coup, les mecs sont peut-être un petit peu plus à l'ancienne, entre guillemets, il faut bien qu'ils se fassent à l'idée que la nouvelle génération de mecs qui arrivent, ils n'écoutent pas que du manouche et ce ne sont pas que des manouches, pour répondre à ta question. Donc je pense que par la force des choses, il faudra bien qu'ils s'y fassent. Mais après, nous, enfin moi en tout cas personnellement, on est des gadjos, donc on n'est pas des purs manouches. On n'a jamais, ça fait 5-6 ans qu'on tourne, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui nous a dit vous n'êtes pas manouche.
Ouais, vous n'êtes pas des vrais.
Vous n'êtes pas des vrais. Non,
même si pour eux, tu fais pas du manouche. Quand même, avec le chinois, rappelle-toi ce qu'il nous dit, même quand il parle de guitaristes monstrueux, genre Adrien Moignard, qui sont des grosses pointures, pour eux, c'est pas des manouches. Quoi. Ça reste
un peu à part.
Ça reste un petit peu à part.
Et puis c'est une fierté aussi.
C'est des puristes,
eux,
hein. c'est une fierté.
Mais du coup, au-delà de l'acceptation, ils respectent le truc. Ils se disent, même s'ils sont pas du sang, ils ont le son. Ouais. Et du coup,
quand
pour
même.
ça,
quand même. quand même.
Puis le fait que tu t'intéresses à leur culture et tout, ça les
valorise. Et ouais, ça les touche.
Par contre, ils ne montrent pas leur plan. Quoi. C'est des chiens. Quoi.
Ouais, mais Formule Secrète, c'est plans, comme un cuistot.
Non, mais vraiment, il faut y aller, il faut bien les connaître. Vous savez, on en connaît un qui nous montre des plans, mais c'est toujours à l'arrache. Quoi. Tu sens qu'ils ne veulent pas non plus. C'est les mecs, c'est boss. Quoi.
Peut-être préciser ce que c'est des gadjos, parce que tu dis on est des gadjos.
Des gadjos, c'est des gens qui ne font pas partie de la communauté manouche. Mmh. En manouche. Voilà. Ouais. Donc nous,
parce que là encore, il y avait un film de Tony Gatliff qui s'appelait Gadjo Dilo.
Gadjo Dilo, voilà. Ouais. Donc on est, je crois, tous des gadjos dans cette salle.
Bah oui, ça, alors là, oui.
On doit avoir un peu de sang manouche du côté de ta grand-mère. Ah. Paternelle, oui, elle avait un style très très manouche.
Elle avait une gueule de manouche.
Je reviens en arrière, c'est idiot, j'aurais dû la poser tout à l'heure cette question. Sacha, tout à l'heure, tu disais, ouais, Netreville, voilà, j'ai grandi avec plein de communautés. Il n'y avait pas de manouche à Netreville ?
Non.
Et sur Évreux, plus largement, est-ce qu'il y a une communauté régulière ?
Je
ne
sais pas, mais autour d'Évreux, il y en a.
Moi, pour avoir fait l'expérience d'avoir été concrètement avec ma guitare manouche dans un camp de manouche à la Rougemar, là-haut, un grand camp de manouche, j'y suis allé avec ma guitare. Et j'ai été très bien accueilli. C'était tous les petits fils de Django, évidemment. Mmh. Évidemment. Mais paradoxalement, il n'y en avait aucun qui jouait de la guitare. Ouais. Vraiment, aucun.
C'est un truc qui se perd, ça.
Vraiment, on a l'impression que tous les manouches jouent, alors que c'est faux, quoi. Mmh. Tous les manouches ne jouent pas de la guitare. Sinon, ce serait. Tu t'imagines, quoi.
Non, un peu plus les manouches en Hollande, Strasbourg.
Oui. Dans l'Est.
C'est un peu plus ancré encore. Mais, c'est vrai que...
mais là, les manouches, non, bah, enfin, voilà. Ouais, en tout cas, moi, j'ai fait expérience concrète. Et
ils sont plus ou moins sédentarisés, quand même.
Oui.
C'est une autre mentalité. Quoi.
Et est-ce qu'il y a. Il y a un lien de peuple, ça on le sait, mais est-ce que musicalement, il y a un lien avec les Gitans en Espagne, par exemple ?
Ah oui.
Et du coup. Comment ça se traduit entre, on va dire, ceux du nord, ceux du sud, dans la musique ? Je parle vraiment de musique, pas forcément de croisement de population, mais dans la musique.
Différent quand même, hein. Moi, je trouve positif.
Bah, à l'origine.
Oui, toi qui viens de Toulouse, en plus, t'as peut-être un regard, t'es plus près de...
Ouais, voilà, moi j'ai fait une transition déjà, effectivement. Non, mais à l'origine, ils partent, d'après l'histoire, ils partent tous d'Inde.
Ouais.
Et après, il y en a qui s'arrêtent en Espagne, il y en a qui vont monter dans les pays de l'Est. Donc plutôt en Espagne, on va les appeler Gitans, en Italie les Sinti, après en Strasbourg, le nord de la France, Belgique, Allemagne, Hollande, c'est les Manouches.
Les Tziganes.
Les Roms aussi.
Ouais, alors les Roms, du coup, c'est des termes. Roms, ça veut dire homme pour eux. Donc Gadjo, ça veut dire non-homme.
Donc Manouche, c'est l'appellation dans les pays du Nord. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça parce que Reinhardt était de Belgique.
On dit même pas Manouche, on dit Manouche.
Manouche.
Ouais. Ouais. C'est Manouche. Manouche. Mais pour en revenir sur la question que tu posais, pour plein de gens, c'est marrant. Enfin, pour plein de gens, pour certaines personnes, quand on leur dit qu'on fait du manouche, c'est, tu vois, Joby Joba, quoi.
Ouais,
Gypsy King.
King,
ouais. Complètement.
Ou maintenant Kenji.
Ouais, c'est assez... ouais, non, mais vraiment. Enfin, je sais pas qui c'est.
Je rate rien. Moi non plus, mais tu rates rien.
Et pour plein de gens, tu vois, c'est vraiment Joby Joba.
Il est gitan, a priori.
C'est vrai?
Oui, il est gitan.
Lui?
Et du coup,
après... Non, pas moi. Non.
Et du coup, après, la suite de ta question, en fait, c'était que chacun, là où ils se sont arrêtés, ils ont continué à faire des mélanges de musique. Donc forcément, le flamenco, ça serait plus tous les pays arabo-andalous.
Ouais, complètement.
Bah, c'est le sud de l'Espagne, quand même, en majorité. Les musiciens de l'Est, après, ils ont leur propre culture aussi.
Puis ça joue, pas du tout
pourquoi
pareil.
Pourquoi les manouches, la guitare comme ça, je sais pas.
Ça joue pas du tout pareil. Le flamenco, ça joue uniquement en doigt. Alors que le manouche, c'est qu'au médiator. Quoi. Mmh. Déjà, c'est pas du tout les mêmes.
Ouais, la technique n'est pas la même. Quoi.
Bon.
Ça reste des musiciens.
Ça va être l'heure d'y retourner.
Hein. Oh merde.
Sinon, vous logerez pas les morceaux qui restent. Donc, deux morceaux encore de Sacha et les Swing at Joe. Tu veux que je baisse les micros tout de suite ? Normalement, je les baisse tous en même
non,
temps.
Non, en fait,
moi,
c'est parce
bien.
Qu'ils ont remis les casques sur les micros. Et ça peut faire un Larsen.
Oh !
Et donc, je nous évite ça.
Ouais, merci. Merci de nous éviter ça. C'est vraiment bien. Allez, deux morceaux de Sacha et les Swing at Joe.
Thank you.
Et les Swing & Joe qui sont avec nous pendant encore 25 minutes sur l'antenne de Principe Actif.
Ça vous a fait une petite berceuse, ça vous dérange pas?
Mais c'était très beau.
Vous êtes
c'était,
fatigué
non. C'était magnifique. Non, non, vraiment. On était suspendus.
C'est pas mal, une petite balade.
Un peu le génie de Django.
Ça change. Ouais.
Cette danse norvégienne, Edouard Grieg.
Ah, c'est
un morceau classique.
C'est un morceau classique, le début. Le début et la fin, ouais. Et il a dû s'inspirer de ce morceau pour l'adapter.
Voilà. Le premier, c'était un morceau plutôt de l'Est, traditionnel. Ouais. À la base, je crois que c'est une valse, même.
Les flots du Danube.
Ouais, j'allais vous poser une question sur votre répertoire. C'est donc que du Django Reinhardt ou...
Principalement, mais il y a quelques traditionnels.
Pas tant que ça, parce que par rapport à ce qu'on a joué depuis le début, le premier morceau qu'on a joué, c'était un traditionnel yiddish, Joseph.
Swing 39, c'est un morceau de Django. Swing 39, c'est de Django. Ouais.
C'était Django, ça.
Il n'y en a qu'un pour l'instant.
En 39.
On va finir par du Django. On va finir par du Django. Il faut qu'on joue du Django. Hein.
J'avais une question, j'aurais dû la glisser après le passage juste avant. Pas ces deux morceaux-là. Les morceaux, je. Tout à l'heure.
Oui,
le deuxième, moi, je l'ai noté, puis j'ai oublié. L'intro, ça m'a fait penser à Bite Assaillante.
Ah ouais. D'accord.
Parce que tu jouais Sacha, voilà.
D'accord.
C'est pas une question. Faut pas forcément qu'on revienne dessus, mais. Mais ouais, il y avait un son qui m'a fait penser, je crois, à un morceau. Je suis pas sûr que ce soit Bite Assaillante, mais je crois que c'était ça. Enfin bref. C'est pas une question. Voilà.
Et vous avez essayé de faire des compositions ou pas?
Oui, ouais. On en fait quelques-unes, on en a quelques-unes.
Ouais. C'est pas évident. Il y en a quand même dans votre.
C'est pas évident de composer un manouche.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Ouais.
C'est pas comme si tu faisais un morceau sol, do, fa. C'est un petit peu plus complexe.
Ouais, on va avoir quatre points, quoi.
Mais voilà.
Valses, on a deux
Thierry
valses.
Thierry a au moins une ou deux compos. Moi, j'ai au moins une ou deux compos. Néné a au moins deux, trois compos. On essaye.
Il faudrait qu'on prenne le temps de les monter.
Oui, surtout ça.
Il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs.
Vraiment, c'est le prochain objectif.
C'est dans un souci d'efficacité, entre guillemets, que c'est dur de vous coordonner entre vos compos. Et du coup, pour un concert ou pour venir jouer à la radio, c'est plus facile de se retrouver sur des standards ou des trucs plus classiques.
Bah, en fait, il faut surtout qu'on se voit pour se dire on les met dans le répertoire, en fait. C'est surtout ça, parce que en fait, je pense que on a envie d'apprendre des dizaines et des dizaines de morceaux. Malheureusement, la réalité, c'est que en fait, tu joues souvent les mêmes, c'est-à-dire que quand tu te représentes, tu joues rarement les 40 morceaux qu'on a, quoi. On en joue en général 20 au maximum, et du coup, on en laisse toujours un petit peu sur le bas-côté. Donc voilà, c'est pas évident de se dire de temps en temps, ouais, c'est bien d'avoir effectivement ses propres compos à soi. Et puis moi j'en ai une qu'on a souvent fait en concert, etc. Pour le coup, je suis assez satisfait parce qu'elles se fondaient bien elles se fondaient bien dans le répertoire, et c'est un bon test aussi, je pense, effectivement, d'en mettre une entre deux morceaux de Django et
Comment le public réagit.
Par exemple, voilà, tout à fait.
Puis le problème aussi qu'on a un peu maintenant, c'est que vu qu'on joue beaucoup quand même, on répète moins qu'avant, quoi. Tu vois, donc on a tendance toujours à jouer un peu les mêmes morceaux parce qu'on joue énormément, donc répéter, ça devient un peu chiant, comme on joue quasiment tous les week-ends. Donc, faire une répète, si c'est pour rejouer les mêmes morceaux, ça sert à rien. Donc, on se dit tout le temps, faut qu'on bosse des morceaux nouveaux, puis on le fait pas.
Alors, ça, c'est assez paradoxal, parce que t'as commencé, c'est toi qui a parlé au tout début pour dire que personne voulait faire du jazz manouche, que tu trouvais pas, etc. Et maintenant, tu nous dis que vous jouez tous les week-ends. Donc, ça veut dire que il y a quand même un véritable intérêt.
Complètement. Et ce qui est vachement sympa, c'est que c'est intergénérationnel, quoi. Ça touche tout le monde, quoi. Les jeunes, les moins jeunes. Et nous, on joue dans des plans, c'est extraordinaire. Quoi. Des fois, on se retrouve, on joue chez un type là, qui est super sympa, qui a plus de 80 ans. Quoi. Tous les ans, on joue pour son anniversaire, on est 5 dans la salle. Quoi. Enfin, on joue dans sa cuisine. Tu vois.
Ah oui, il vous fait venir carrément.
Et on jouait pour sa mère qui avait 102 ans, qui est décédée l'année dernière. Là. On jouait tous les ans pour sa mère qui a eu ses 100 ans, ses 99 ans. Ils sont fans de jazz manouche. On vient jouer chez eux. Quoi. On mange avec eux, on joue à l'apéro, au dessert. C'est leur cadeau. Quoi.
Ah ouais, impressionnant.
Du coup, il y a vraiment des plans comme ça.
Vous jouez où régulièrement? Et enfin, ce que je veux dire, c'est dans quel genre d'endroit vous jouez.
Voilà, moi j'avais une question.
Parce que je vous ai jamais vu au 106, par exemple.
La plupart du temps. Alors, la plupart.
C'est pas une attaque. Hein.
Non, effectivement.
D'accord.
La plupart du temps, on va dire que de plus en plus, c'est des concerts privés, d'ordre privé quand même, c'est-à-dire pour des mairies, pour des soirées privées ou autres. On fait de moins en moins de bars, ce qui pour nous est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même, on commence à avoir quelques années de scènes, et puis si on peut se retourner vers des scènes plus grandes, des festivals, etc. Bon, en même temps, on fait pas non plus une démarche de fou d'appeler, etc. Mais le bouche-à-oreille fonctionne quand même. Donc on fait de moins en moins de bars et de plus en plus de bonnes scènes assez importantes. Après, pour répondre à ce qu'il disait Néné, effectivement, ça touche tout le monde. Et puis je pense aussi, même bon, c'est peut-être tout con ce que je dis, mais visuellement, le fait de voir qu'un jeune mec de 26 ans s'intéresse au manouche, joue du manouche, Thierry est jeune, enfin voilà, il y a plusieurs.
Le fait qu'on soit père et fils, ça touche vachement
ouais, les gens le savent
pas pour le vieux, quoi.
Quand ils le savent, quoi.
Les gens le savent pas forcément au premier abord, alors que quand ils nous voient, je pense que les gens constatent qu'il y a plusieurs générations dans ce groupe, et c'est bien, du coup, ça intéresse les gens à dire, ouais, bah effectivement, ce mec, il aime ce style, donc c'est que c'est pas forcément. Parce que voilà, on met des étiquettes, c'est peut-être réservé à un public plus âgé, on sait pas, tu vois. Et non, en fait, c'est tellement bon que faut pas hésiter, quoi.
Mais ça, ça donne pas envie d'aller encore plus loin quand vous voyez que ça plaît énormément dans un rayon géographique quand même assez limité? Est-ce que vous avez pas envie de le dépasser, ce rayon géographique, et d'aller jouer un peu partout?
On va en avoir, là, on est au mois d'août, on a un bon plan, on part 3 jours en Corrèze. Je joue en Corrèze, on joue en Bretagne au mois de septembre.
Dès qu'on peut, on se
déplace. On a joué en Champagne, il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine de jours. Là. Et on a joué sur Deauville, Honfleur, en Rouen, etc. Donc... Mais bon, en même temps, nous on a une chance inouïe ici, c'est qu'on est les seuls à faire
le manouche. Oui, mais je pense pas qu'il y en ait des tonnes partout.
Si tu vas dans l'est de la France,
il y en a plus.
Tu fais ça, t'en as. Puis des très très bons en plus. Nous, quand même, on est quasiment dans la région les seuls à faire ça.
C'est un plus énorme pour nous. J'en ai pas croisé d'autres.
Non, puis maintenant ça joue quand même, donc c'est aussi le truc qu'on a. Moi, j'ai encore eu un coup de fil cet après-midi pour une femme qui m'appelait pour un concert à l'automne. Elle a entendu parler de nous combien, quoi. Elle me dit, tu vois, c'est pas ce qu'on fait, on ne nous a jamais vus ni entendus, mais elle sait que généralement, ils ne sont pas déçus.
Oui, ça veut dire qu'en même temps, tu disais que vous ne faisiez pas des tas de démarches. Si vous en faisiez, ça serait encore pire, quoi.
Ouais, peut-être bien, ouais. Mais on en a fait surtout au début. Hein. Au début, dès qu'on s'est, formé, on a évidemment mis une annonce sur le bon coin, on a fait des fly, et après, effectivement, c'est le bouche-oreille qui fonctionne. Mais on est aujourd'hui dans la démarche d'avoir des concerts sans en demander. On a des concerts parce que les gens nous appellent. Et ça, c'est intéressant. Voilà, il y a encore quelques années, on appelait, on faisait un peu la démarche. Bon, est-ce que vous acceptez un groupe, etc. Là, aujourd'hui, les gens nous appellent et on n'a presque plus à démarcher.
Et même des jours, on a deux ou trois concerts. Ça nous est arrivé, quoi, d'avoir 2 concerts dans la même journée. Quoi.
Un peu speed, mais bien.
Et même là, on a encore refusé 2 plans parce qu'on ne peut pas les faire. Quoi. On avait d'autres concerts ce jour-là.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais que sur Rouen, il y a une asso. Alors, l'asso balkanique, peut-être que ça vous parle. Tu vois,
c'est pas le même.
Non, mais du coup, ma question, c'est peut-être y avez-vous déjà pensé, ou peut-être que je dis en effet une grosse bêtise, mais vous rapprochez de. Alors, pas forcément, puisqu'on a compris que c'était pas un style qui était très, vraiment très développé dans le coin, hormis vous, il n'y a pas forcément grand monde, mais sur des styles plus fanfare de l'Est, fanfare des Balkans, etc. Il n'y aurait pas moyen de voilà, il y a. Ouais, je crois que c'est la sauce piquante à Rouen. Ou la sauce balkanique. La sauce piquante, c'est sur Strasbourg. Voilà, je confonds. Ce serait pas une idée pour profiter d'une sorte de label de je sais pas comment ils sont constitués exactement, je les connais pas super bien, mais ce serait pas un truc pour trouver des plans pour jouer avec d'autres groupes qui sont pas dans le même style mais qui rappellent des influences.
En même temps, là, je voyais, c'est la semaine du jazz à Louviers, là, où les mecs, ils savent qu'on existe. Il y a pas une seule fois, ils nous ont invités, quoi. Jamais on a eu.
Jamais on a eu contact.
Mais les mecs, ils savent qu'on joue. Qu'on est allé jouer là-bas au Moulin. Et les mecs, jamais une fois, ils nous ont appelés.
Peut-être qu'il y a des
jazz à Louviers, c'est un jazz très particulier.
Je crois que j'ai l'impression que c'est chapeauté par un type, JR en l'occurrence, qui gère tout ça.
Non, mais parce qu'il y a des systèmes.
Qui doit faire jouer son réseau, je pense.
Il y a des systèmes de réseau, effectivement, comme tu le dis, où si on ne va pas vers eux, ils ne viendront pas vers vous, parce qu'eux estiment que c'est aux musiciens de venir vers eux.
C'est vrai que nous, on ne fait pas la démarche. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à ça.
Et vous n'avez jamais eu l'idée de tout plaquer pour faire que ça?
Je m'adresse aux deux autres parce
qu'ils ont un boulot, pas à toi, Sacha.
J'ai fait que de la musique pendant des années. Ouais. J'étais pro. Hein.
Ah, d'accord.
J'ai joué dans Black Maria pendant 10 ans.
Ah oui, ça je savais.
Black Maria,
Mais Thierry,
il
bosse dans le son aussi déjà. Il passe
dans le théâtre, spectacle vivant.
Parce que visiblement, d'après ce que vous êtes en train de dire, il y a une vraie demande et vous pourriez presque jouer en poussant presque tous les soirs, à mon avis.
Oui, complètement. Oui. Mais après, est-ce qu'on aurait la même... si on jouait tous les soirs, est-ce qu'on aurait la même envie, la même fraîcheur, la même... En même temps, nous, on est vachement content de faire du manouche parce qu'on a autre chose à côté. Voilà. J'ai d'autres styles, Sacha aussi, Thierry aussi.
On peut le dire, hein, Off the Beaten Track.
Off the Beaten Track, oui.
Les French Dandies.
Sacha, il fait du hip-hop. Thierry fait autre chose aussi. Il a des enfants, déjà, c'est pas mal.
T'as pas de groupe, toi, à part les Swingatchou?
Non, bah attends, entre le boulot, je te dis, hein, moi, je travaille déjà au régime de l'intermittence, donc c'est quand même un rythme.
Mais nous, on est conscients.
Il n'y aura pas la place pour notre groupe.
Et avec Sacha, on se le dit, si on faisait que du manou, je pense qu'au bout d'un moment, ça tuerait un peu.
Ah oui, voilà, c'était un peu ça ma question.
Moi, je suis content quand je joue avec les Beatons. Sacha, il est content quand il joue avec Momo. Ça nous fait du bien de jouer autre chose, c'est d'entendre autre chose. toi. Et quand on revient en manouche, on est d'autant plus. Moi, il y a longtemps que j'ai joué, là, il y a une semaine que j'ai pas fait de manouche. Je suis vachement content de jouer ce soir. Toi, ça me fait du bien, ça me manquait. Mmh. Vraiment, ça me manque quand même, quoi.
Et la question un peu provoque de Timothée tout à l'heure sur je vous ai jamais vu au 106. Est-ce que c'est une musique qui a sa place dans les SMAC, à votre avis, ou
dans,
pas?
Oui, je pense, dans une soirée bien. C'est une soirée à thème, oui. On a joué à l'abordage, hein, Sacha. C'est très longtemps. Hein.
Pas au 106, mais à l'abordage, il y avait le groupe Les Doigts de l'Homme qui était passé. Donc eux, ils sont catalogués jazz manouche. Ils ont énormément d'influence, une énorme énergie rock.
Énorme, ça joue, c'est des tours.
Une énorme énergie
c'est
rock, tours, beaucoup de compos.
Ils sont passés où?
Ils étaient passés à l'abordage, au 106, je crois pas, non, il me semble pas, mais ils pourraient très bien y passer.
Les mecs, ce sont des tours. Hein.
Mm-hmm. Sur une programmation dite musique actuelle.
Oui, oula.
Voilà.
Oui, mais c'est vaste.
Mais on pourrait le faire dans le cadre d'une soirée bien précise. Ouais, complètement.
C'est un peu le problème avec aussi cette forme de label qu'ont la plupart des salles maintenant, de se dire alors musique actuelle, alors du coup musique actuelle c'est quoi? Le rock ça date des années 50 les mecs, c'est plus très actuel, tu vas par là quoi. Donc, du coup pourquoi pas le manouche?
D'accord Timothée.
Carrément, maintenant on ne demande que ça, sans doute.
Bah, j'imagine, c'est pour ça que la question se pose. On va vous laisser parce qu'il reste trois morceaux, je crois. Donc si on veut entendre les trois, il faut y aller maintenant.
Il faut y aller.
Bah ouais, parce qu'il reste 13 minutes.
On est bien là, on va se faire.
Pourtant on est bien, on est comme à la maison. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc trois morceaux de Sacha et les Swing à Joe, et puis on espère qu'ils auront le temps de nous redire un petit mot au micro après les trois morceaux.
Thank you.
Sacha et les Swinga Joe qui étaient avec nous ce soir et qui sont encore avec nous pendant 5 minutes dans cette dernière émission de Comme à la maison pour la saison, puisque nous reviendrons dès septembre avec JC ou parfois avec Timothée comme ce soir.
C'est sympa de m'inviter aussi, ça fait plaisir.
Bah ouais, mais t'es toujours le bienvenu, tu le sais.
C'est cool.
Et une fois vous étiez à tous les deux d'ailleurs,
ouais,
je crois.
Privilège.
Ouais. C'est carrément... Alors attention. Ah,
c'est Méré.
Attention, nous avons une intervention.
C'est Méré. C'est Méré est une personne avec qui on fait de la radio.
Démocratie, quand il y en a démocratie, m'engadegna dans les pêches, menau calo.
Merci, c'est Méré.
Okay.
On va te reprendre le micro.
On en a encore alors, un peu besoin du micro.
C'est Méré, il fait de la radio le dernier mardi du mois, à midi et demi, dans le créneau aux zones libres. Ok.
Non, c'est yes. Pas
donc
c'est
il est venu écouter Sacha les Swinga Joe.
Exactement, il passe régulièrement. Il passe régulièrement écouter les lives du vendredi soir.
C'est tout.
Bon, il met un peu d'animation même.
Ouais.
Voilà.
Ouais,
ouais, ouais.
Un peu plus que nous en tout cas.
Pourquoi? Tu veux dire que
je rigole.
Ah bon.
Avec ce pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour la suite? Où est-ce qu'on va pouvoir vous applaudir déjà dans les semaines qui viennent?
À la fête de la musique.
Pour ceux qui vous connaissent pas, tiens.
À la fête
vous
de
aurez
la musique,
découvert ce soir.
Pardon. À la fête de la musique, on a une bonne scène, Place Epmanville à 19h. De 19 à 20h, on sera en formation
19h.
Complète. On sera 5 là, et donc il y aura les 3 guitares, le violon et la contrebasse.
Mm-hmm.
Donc 19h, Place Epmanville.
Le 21 juin.
Le 21 juin.
Dimanche 21.
La veille, on est entre 16 et 17h, on est dans le parc de la Musse.
Ouais, à Saint-Sébastien.
Ouais, et ensuite, pour ceux qui veulent, on joue au Hara, dans la foulée, on joue au Hara près du golf.
Ouais.
Voilà, donc en ce qui concerne les dates à venir...
Toujours là, le 19?
Toujours le même jour, mm-hmm. Le 19 juin. Sinon, là... Après, ce sont des dates, mais des dates privées. Le 22, on a une date, c'est privé. Le 29 aussi.
Mm-hmm.
Sinon, après...
Ça fait bien de dire ça, c'est une date privée.
Oui, non, regarde
pas pour tout le monde.
Voilà,
les mecs,
ça vous apprendra. Ça vous apprendra.
Sauf que ça fait pas juste bien, c'est vrai en plus.
C'est la classe, la grande classe quoi. Non mais après, je sais pas ce que nous.
Non, bon, on va rappeler sur
ça.
On a
suffire.
Un plan le 25 juillet, ceux qui veulent venir, on est au Saint-Nicolas à Gravigny,
mm-hmm.
Qui reste au sympa, on marche très bien d'ailleurs.
Une dernière question purement musicale, les fins de morceaux. Est-ce que c'est voilà, c'est le style qui veut ça. Ça me fait penser aux fins de morceaux des mariachis. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est pas comparable, mais ils terminent toujours leur morceau d'une certaine façon. Est-ce que dans le manouche, c'est un rituel, on termine forcément un morceau comme vous l'avez fait, avec une
ça
dernière
dépend.
Pêche.
Ouais,
voilà.
Ça dépend. En fait, en général, c'est la fin classique, on va dire, la plus conventionnelle. Après, on peut faire 1000 fins différentes. Le tout, c'est de les bosser. Bien les sortir en répète et surtout bien les sortir en concert, parce que si tu fais un putain de solo mais que tu te foires à la fin,
ouais, les gens retiennent que
ils
ça
vont
ouais.
Retenir que la fin, c'est mort. Donc voilà, mais
c'est un peu comme en rock, tu vois, il y a toujours le celui le gratteux qui met toujours le dernier accord, il y en a toujours un qui veut
il y en a toujours un qui veut en rajouter
On aime bien venir sur un accord un peu tendu, tu vois, ça t'as l'impression qu'il y a autre chose qui va venir puis en fait il se passe rien.
Ouais. C'est une feinte, quoi.
On a beaucoup dit que ça plaisait, qu'il y avait toute génération qui pouvait apprécier, etc. Est-ce que vous avez eu aussi des réactions inverses, c'est-à-dire des gens qui voulaient même pas en entendre parler et qui étaient complètement hermétiques?
Très rarement. Quand
non,
même,
c'est jamais arrivé.
Il y a des gens qui aiment pas, mais bon, ils te le disent. Ouais. Hein, donc,
ils vous disent qu'ils aiment pas.
Ah oui, d'accord. Ils viennent pas parce qu'ils aiment pas ce style-là.
Ah oui, ils se déplacent même pas.
Oui, ça les emmerde.
D'accord. Quoi. Ah ouais. Quand même, ouais, c'est un peu extrême de carrément pas se déplacer pour écouter et laisser une chance.
Il y a vraiment des gens qui ont l'impression, si tu veux, comme Brassens, ils ont l'impression que c'est toujours la même chose, alors que c'est, on est bien placé pour dire que c'est pas du tout la même chose. Chaque morceau est totalement différent.
On s'en est rendu compte, ne serait-ce que ce soir avec
vraiment. Il y a vraiment des gens, pour eux, le manouche, toujours pareil, quoi. Accords.
C'est le problème de tous les styles après. Oui. Hein. C'est vrai, hein. Dès qu'on n'est pas fan d'un style, on dit bah c'est toujours pareil. Bon, on recherche pas forcément à savoir si c'est le cas, justement. On dit que c'est toujours pareil alors que non.
Oui, c'est-à-dire qu'à la limite, on fait même pas la démarche de venir voir et écouter
non.
Surtout.
Non, mais ça nous dérange. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Je préfère jouer devant deux personnes attentives que devant 20 000 personnes qui
n'écoutent pas.
Qui n'écoutent pas, tout à fait.
Tiens, mais on parlait de lui à l'instant disant qu'il était pas là. Il a fallu qu'il trouve les moyens d'être là quand même. T'as vu, tu étais un peu.
Big up.
Comme le chef.
J'essaye.
Le chef.
Il arrive toujours le chef. Quand le chat n'est pas là, ouais. Les souris dansent. Mais le chat vient toujours finir toujours par venir.
La dernière minute.
Il arrive à une minute.
À voir si tout le monde est là encore.
Pour voir si on a bien fini.
C'est un vrai chef. C'est bien ça.
Il arrive
quand c'est fini.
Comme ça, ouais. T'as une dernière question, vous avez une
non.
dernière chose qu'on ne vous aurait pas demandé, tiens, ou un petit message à faire passer. D'ailleurs, Léa, tiens, l'autre soir, t'avais un message à faire passer avant-hier et tu l'as même pas fait passer à la fin. Ah, tu l'as fait ?
Non, je ne ferai aucune annonce pour TF1. Ça
non, vous n'avez ça. Rien.
Vive
non,
la guitare, vive les manouches, vive les musiciens,
la
vive
la musique, ouais.
Il n'y a pas une question indispensable qu'on aurait oubliée alors.
Non,
pas forcément.
Non,
vous avez vraiment fait le.
Tu nous as pas demandé combien d'heures on passait sur notre guitare pour en arriver là.
On a évoqué le fait que c'était du boulot.
J'ai dit que c'était des heures et des heures de pratique. Et des années de pratique.
Même. On est d'autant plus contents maintenant qu'on sent que. Ce que je voudrais rajouter. Je trouve que sur Évreux, ça rebouge depuis un moment musicalement. Quoi.
Oui.
Il se passe pas mal de choses. Il y a des endroits pour jouer. Les bars commencent à rejouer le jeu depuis que Nadège, d'ailleurs, bravo Nadège, merci Nadège.
Oui, moi je crois qu'elle a créé une impulsion.
Oui, elle a créé une impulsion. D'ailleurs, ça rejoue. Puis...
À l'atelier, Nadège.
D'ailleurs, on espère retourner faire cette émission. Et
moi qui commence à être un vieux zico, parce qu'il y a très longtemps que je joue, et je trouve qu'il y a une émulation maintenant. Tous les musiciens jouent ensemble. Ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. T'étais très catalogué. Quand tu faisais du rock, tu faisais que du rock toute ta vie, ou du jazz, que du jazz.
Avant, on entendait, il ne se passe jamais rien. Maintenant, on entend, il y a trop de concerts. On ne sait plus auquel aller.
Oui, puisque vachement intéressant depuis un moment, c'est que les musiciens jouent ensemble maintenant, ce qui ne se faisait pas avant. Quoi.
Oui, ça communique.
Ça, c'est génial. Tu mélanges tous les styles, c'est superbe.
Bon, on va dépasser, on a dépassé d'une minute.
Déjà. Merci, merci les gars, vous.
C'est mal.
Les
gars, merci beaucoup. Juste merci, on était comme à la maison.
On vous remercie, on tenait à vous avoir.
Merci Thierry, merci Sacha.
On est ravis.
Et merci Néné.
Et nous, on se dit à demain à Ça sonne à la porte et aux auditeurs.
À partir de 18h demain.
Et on se dit au mois de septembre pour Comme à la maison, la reprise. Alors, on ne sait pas encore exactement quelle sera la date de la reprise parce que le chef ici présent qui vient d'arriver dans les studios doit faire son planning puisqu'il alterne avec son autre émission. Mais on se retrouvera au mois de septembre au moins une fois pour un numéro de Comme à la maison. Bonne soirée à tous.
À l'année prochaine.
À bientôt.